c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour aujourd'hui avec Maud Descamps.
Que diriez-vous de vous faire livrer à la demande de bons légumes fraîchement cueillis ? Maud, c'est ce que propose justement la start-up à l'ancienne.
Exactement, un service de livraison à domicile de produits frais, ultra frais même, hein, on peut dire, du bio, du local, des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, bref, l'essentiel. On commande en ligne, on a jusqu'à 22h la veille et notre panier est livré le lendemain chez nous, le lendemain après-midi. Et c'est vous qui avez eu cette idée, Paul Charland, bonjour.
Bonjour.
Alors, a priori, rien ne vous destinait à vendre des fruits et légumes. Hein. Vous êtes diplômé de l'école centrale, ingénieur physique-chimie. Et pourtant, un jour, vous croisez le chemin de ceux qui vont devenir vos trois associés et vous créez ensemble cette start-up à l'ancienne.
Exactement. En fait, l'idée, c'est moi, je suis passionné de nourriture depuis et de bonne bouffe depuis tout petit. Je
cuisine. Vous avez bien raison.
Je cuisine depuis assez longtemps et en fait, j'ai remarqué assez vite que finalement, dans la cuisine, ce qui est le petit truc pour bien cuisiner, c'est d'avoir des bons produits. Et comme j'habite en Normandie, là-bas, j'ai la chance d'avoir des bons producteurs. Et quand je me suis retrouvé dans mon école, c'était un peu tristounet. J'avais juste un supermarché à côté. J'étais un peu triste. Et je rentrais tous les week-ends et je me ramenais tous mes produits. Et puis mes collègues d'étage m'ont dit, c'est quand même sympa, tu m'en ramènes la semaine prochaine. Donc j'en ai ramené pour tout le monde et je me disais qu'il y avait un truc. Et à ce moment-là, je suis parti à Berkeley pour finir mes études, à l'université de Berkeley. C'est là où j'ai rencontré mes associés. Je leur ai pitché l'idée. On s'est dit que ça allait être compliqué en logistique, mais en fait, on a trouvé là-bas des acteurs qui le faisaient. Et donc on s'est dit, pourquoi pas nous.
Mais est-ce que ça n'existe pas déjà, entre la ruche qui dit oui, les AMAP, j'ai l'impression que tout le monde s'y met. Qu'est-ce que vous avez de différent, vous ?
Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de réunir le whole package, entre guillemets. C'est qu'on est bio, agroécologique, local, de saison, direct producteur, livré à domicile en scooter électrique, en packaging recyclé. En fait, voilà. L'idée...
Et c'est les délais aussi qui sont intéressants.
C'est cueilli le matin, livré chez vous le soir. Et c'est là où nous, on a une vraie promesse. Ça nous permet d'avoir zéro stock. Pas de gaspillage alimentaire, on ne jette jamais rien, on cueille dans les champs uniquement ce qui a été commandé et ça permet de faciliter la chaîne.
Oui, donc c'est ça, pas de contrainte parce que c'est une demande du consommateur aujourd'hui de ne pas avoir un panier imposé ou en tout cas une livraison, un rythme de livraison imposé, je commande quand je veux.
Exactement, on commande ce qu'on veut, quand on veut, on est livré dès le lendemain et jusqu'à 22h même pour les gens qui travaillent tard chez eux.
Alors, il y a quand même aujourd'hui, dans l'air du temps, beaucoup de ce qu'on appelle l'agribashing. Il y a tout le débat sur les pesticides, on s'interroge aussi énormément sur l'origine des produits, comment les produits sont cultivés. Est-ce que vous sentez que ça, c'est justement une demande de la part de vos clients, du consommateur, et que c'est pour ça aussi que ça marche si bien à l'ancienne ?
Bien sûr, nous, le but, c'est de faire la transparence la plus absolue. Grâce au digital, en réalité, on reconnecte aussi les gens avec les producteurs. Tous les produits sont vendus sous le nom des producteurs, donc c'est eux qui sont mis en valeur avant tout. Et ça nous permet d'expliquer à tous les clients comment exactement les produits sont cultivés sur le site.
Riyad ?
Ouais, alors première question, j'aime bien, je trouve ça super, effectivement, je rejoins le point de vue où j'ai l'impression que ça se démultiplie un peu partout, on retrouve ce genre de service un peu partout. Comment vous faites-vous pour réussir là où les autres, en fait, finalement, réussissent pas ? Qu'est-ce que vous avez de plus ?
En fait, on a pris les problèmes un par un. On l'a fait assez naïvement au début. La logistique, on nous a dit, mais vous y arriverez jamais. Et puis, aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne, on est rentable. Et c'est là où nous, je pense qu'on a acquis un système, c'est que en même temps, on a voulu que ce soit le plus simple possible pour le consommateur, qu'il n'y ait aucune contrainte, qu'il n'y ait pas d'excuse pour pas manger agroécologique, local et de saison. Mais de l'autre côté, que ce soit aussi beaucoup plus simple pour l'agriculteur, qu'il n'ait pas de coûts supplémentaires, et qu'au contraire, on puisse le rémunérer le mieux possible. Et nous, en mettant tout ça en bringue, finalement, la machine fonctionne assez bien.
Et à la fin, ça coûte combien ?
Et à la fin, ça coûte pas plus cher que le bio en supermarché, alors que c'est livré chez vous. Mais la question du prix est assez intéressante, parce que la réalité aussi, c'est que le prix que nous, on a en supermarché n'est pas le prix réel des choses. Il faut bien comprendre qu'il y a énormément de coûts cachés. Moi, j'explique ça comme si on avait une passion encombrante. Votre passion, c'est d'aller à la brocante dans les vide-greniers et d'acheter des meubles. Alors, vous faites des super affaires parce que vous achetez des commodes à 30€, mais la réalité derrière, c'est que quand vous n'avez plus de place chez vous, il faut acheter une nouvelle maison ou un nouvel appart. Donc, d'un seul coup, votre passion qui ne vous coûtait pas cher, vous coûte très cher parce que vous coûte le prix d'une maison. Le but, c'est ça, c'est que nous, il n'y a pas de coût caché. L'agroécologie, les fermes avec lesquelles on travaille, elles nettoient l'eau. C'est-à-dire que l'eau, quand elle sort de la ferme, elle est plus propre que quand elle est rentrée. On n'a pas besoin de la dépolluer. Et il y a énormément, on recrée la biodiversité, etc. Il y a énormément d'externalités positives qui font que, collectivement, en fait, c'est beaucoup moins cher.
Vous êtes capable de mettre tout et n'importe quoi dans mon panier. Si je me connecte maintenant, je peux commander à peu près tout ce que je veux, des œufs, du poulet, des pommes, ou on va uniquement travailler forcément en local et en saisonnier ?
Forcément local, moins de 200 km pour tout ce qui est produit d'épicerie et même moins de 80 km pour tout ce qui est produit frais. Ça nous permet d'avoir ce flux tendu, ça nous permet d'avoir cette fraîcheur. Alors c'est vrai que du coup, on n'a pas tout ce qu'on veut tout le temps, notamment pour l'instant les bananes et les agrumes, c'est pas le cas. Mais la France et l'agriculture française a pléthore de produits à proposer. Et notamment, contrairement à ce qu'on croit, on a beaucoup plus de légumes en hiver qu'en été.
Alors, vous avez créé à l'enseigne il y a 3 ans. Vous êtes déjà rentable. C'est quand même au bout de 3 ans, il faut le souligner. Les prochaines étapes, là, c'est des nouvelles ouvertures, parce que pour l'instant, c'est que Paris.
Alors non, on a ouvert Paris il y a 3 ans et Lyon est accessible depuis la rentrée. La banlieue parisienne grandit aussi, on s'agrandit au fur et à mesure. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est rentable, c'est qu'on a fait les choses petit à petit.
Sur Alfortville, vous livrez ou
pas? Pas encore, mais bientôt. Et donc l'idée, c'est que notre modèle, on l'a pensé, on est 3 ingénieurs sur les 4 cofondateurs, on a vraiment pensé ce modèle pour pouvoir aller dans toutes les grandes villes de France et proposer ça à tous les urbains.
Donc bientôt, un petit peu partout sur le territoire, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour À l'ancienne. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone pour nous contacter, venir témoigner. C'est Octobre Rose et on parle du cancer du sein et des innovations pour les patientes. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
La France bouge s'intéresse aujourd'hui aux innovations pour aider les patientes atteintes de cancer du sein. Et vous allez voir qu'il en existe à tous les niveaux des innovations. On va commencer assez logiquement par l'étape du diagnostic, la mammographie. Bonjour Pierre Fillard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé TheraPixel. C'est un logiciel d'intelligence artificielle qui les interprète. Vous êtes vous-même chercheur à Sophia Antipolis, spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale. Il y a 3 ans, avec votre projet, vous avez fini premier au Digital Mammography Challenge, c'est quand même bien de le signaler, parce que votre machine, en fait, elle sait diagnostiquer le cancer du sein et interpréter un cliché, finalement un peu comme un radiologue.
Effectivement, donc on a travaillé sur ces technologies d'intelligence artificielle depuis plusieurs années. En participant à ce challenge, ce qui était intéressant, c'est que c'était ouvert à tout le monde. Il y avait la même puissance de calcul pour tout le monde, également les mêmes données. C'est-à-dire que comme c'est des techniques qui utilisent des données pour apprendre, on va dire à la machine, écoute, essaye de séparer entre ces images où effectivement on sait qu'il y a eu un cancer qui a été diagnostiqué et ces images-là qui sont tout à fait bénignes, tout à fait normales, apprends à vraiment différencier ces deux paquets. Et donc on avait les mêmes données d'apprentissage, la même puissance de calcul et on a terminé premier. Seul le talent, quelque part, pour programmer la machine, permettait de faire la différence.
Racontez-moi, vous avez eu l'idée comment de travailler sur ce problème-là en particulier ?
Alors déjà, c'est un problème de fond, de société, qui peut toucher une personne sur deux sur la planète, donc qui est très importante. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même un enjeu très fort, notamment dans le dépistage, pour essayer de dépister un petit peu plus tôt les cancers. L'idée, c'est que on a regardé en fait, un certain nombre de mammographies qui ont abouti à un diagnostic de cancer. Et on allait voir les mammographies qui ont eu lieu 1 ou 2 ans avant. Comme c'est quelque chose qui est dépisté systématiquement, les femmes vont régulièrement se faire dépister. Donc on allait voir les mammographies un petit peu avant. On a demandé à des radiologues de voir si effectivement ils auraient pu déjà repérer, sachant après où le cancer allait apparaître, où est-ce qu'il y avait le cancer. Et dans 1 cas sur 2 à peu près, on est capable de dire, effectivement 1 ou 2 ans avant, qu'il y avait déjà un cancer qui était là.
Ça veut dire que sur le cliché, il y a déjà une présence, mais que l'œil du radiologue ne peut pas la détecter forcément. En revanche, la machine, elle, va pouvoir le faire.
Alors, c'est tout à fait exact. Donc, l'œil du radiologue, c'est un travail qui est extrêmement compliqué. C'est des signaux extrêmement faibles, extrêmement petits. C'est un petit amas de pixels dans l'image, si vous voulez, qui est une grosse image, comme au téléphone, qui fait des millions de pixels, qui est très difficile à déceler. Et alors, certains radiologues peuvent éventuellement un petit peu passer à côté, mais ce n'est pas de leur faute, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Et en utilisant la puissance de la machine, on a été en mesure vraiment d'arriver à dépister, à détecter ces petites choses très 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 tôt, et de le mettre en avant dans un logiciel pour dire au radiologue, et attention, là je pense qu'il y a un petit cancer naissant, ça aurait peut-être le coup au moins de faire quelques examens complémentaires pour s'assurer que c'est pas quelque chose de malin.
Ouais, c'est important parce que quand on regarde les chiffres, Maud, on se rend compte qu'il y a énormément de cancers du sein.
Bien sûr, c'est d'ailleurs le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent aujourd'hui chez la femme. L'an dernier, en 2018, il y a eu 58 000 nouveaux cas diagnostiqués en France. Pour vous donner une petite idée un peu du public, on va dire l'âge médian au moment du diagnostic, c'est 63 ans. Et si le cancer du sein est bien sûr majoritairement féminin, quelques hommes sont aussi concernés, moins de 1%, environ entre 500 et 600 hommes ont été diagnostiqués l'an dernier.
Justement, sur l'âge médian, vous dites, nous, on peut quelque part agir, parce que si on dépiste un tout petit peu plus tôt, on va gagner un an, voire deux ans.
Ça change complètement la relation de la patiente vis-à-vis de sa maladie et du radiologue, parce que en détectant un petit peu plus tôt, on va être capable de prendre son temps, entre guillemets, de dire, voilà, bon, faisons un suivi très régulier, très rapproché, pour s'assurer que ce n'est pas quelque chose d'agressif. On a le temps de réagir. C'est peut-être un cancer que normalement on aurait dû détecter dans deux ans, par exemple. Donc on a vraiment un arsenal thérapeutique et de suivi à mettre en place qui est tout à fait bénéficiaire pour la patiente et qui permet peut-être d'éviter des mastectomies, des traitements lourds, alors qu'on a déjà détecté les choses à un stade très très précoce.
Que dit notre coach ?
Moi, je dis que c'est super. C'est là où on voit que la technologie, on peut amener le meilleur de la technologie au service de l'homme et de la femme, enfin, au sens large. Donc, je trouve ça effectivement génial. Je me demande quel est l'avenir des radiologues et des médecins dans 20, 30, 50 ans. Je pense qu'on se fera analyser par des algorithmes.
Alors, juste pour tempérer un petit peu le message que la médecine est déjà quelque chose de très humain à la base, donc il ne faut pas enlever l'homme de cette pratique.
Il accompagne,
évidemment.
La machine accompagne l'homme.
Tout à fait, ce qu'on montre avec une étude clinique qu'on a faite cet été, c'est que l'homme et la machine, de toute manière, sont toujours meilleurs que l'homme individuel ou que la machine individuelle. Et ça restera, à mon avis, comme ça. Il faut le prendre un petit peu comme un peu là, un pilote d'avion, où en médecine, on va pouvoir avoir des algorithmes, des programmes, qui vont pouvoir relire une partie des images, probablement seul, sans assistance. Par contre, à un moment donné, le programme va redonner le contrôle au radiologue, comme un autopilote qui va dire « Maintenant, il y a un abord qui est un petit peu difficile de cette piste, il faut que tu reprennes le contrôle. » Pour que là, le radiologue puisse effectivement rajouter une valeur supplémentaire avec son intelligence humaine, la vraie. Il se sera formé sur des tonnes et des tonnes de cas avant, pour pouvoir vraiment faire la différence entre quelque chose de bénin et de malin.
La machine, aujourd'hui, vous allez la commercialiser, c'est prévu début 2020, elle est en test dans une dizaine de centres en France, c'est ça ?
Alors on est en train de déployer effectivement en test notre algorithme pour vraiment faire de l'aide au dépistage. On attend les accréditations, donc on a rempli les dossiers à la fois sur le côté européen et également américain. Donc on essaie d'avoir une vision très globale pour que ce genre d'innovation puisse bénéficier aux plus de femmes possible le plus vite possible. Également, on commence le travail, on va dire, avec des ONG pour essayer de proposer ce type d'innovation à des pays en voie de développement où ils n'ont pas forcément un plateau technique et des radiologues complètement experts comme on peut l'avoir avec la chance qu'on a dans des pays comme la France ou en Europe.
On reste ensemble et on continue à parler innovation et combat contre le cancer.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et justement, l'étape suivante, c'est ce combat avec une avancée majeure, la machine Papillon. À tout de suite.
Dans la France Bouge, on s'intéresse aujourd'hui aux innovations pour aider les patientes atteintes du cancer du sein. Vous êtes concerné, vous voulez témoigner, poser des questions à nos invités, c'est simple, vous nous appelez au 3921. Vous pouvez également nous écrire via Twitter, Raphaël, @Europe1.
Quand une patiente apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, commence alors tout un processus qui passe notamment par la radiothérapie. Bonjour Jean-Pierre Gérard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de cancérologie radiothérapie au centre Antoine Lacassagne à Nice. Ça fait 50 ans que vous travaillez sur le cancer.
Oui.
Et vous avez créé Papillon. Alors Papillon, c'est une machine qui traite les petits cancers du sein de manière locale en une minute après ablation de la tumeur. Vous allez évidemment nous expliquer comment ça marche. Mais d'abord, il y a une histoire sur ce nom. Pourquoi Papillon ? C'est un hommage.
Eh bien, écoutez, ça remonte effectivement à 1969 où je rentre au centre Léon Bérard à Lyon, comme jeune interne, et je découvre un professeur fabuleux qui s'appelle Jean Papillon, et il guérit les cancers du rectum, les petits cancers du rectum, en faisant une rectoscopie, et à travers ce rectoscope, il introduit un tube à rayons X, et il irradie la tumeur, et il la guérit. Et cet appareil, eh bien, c'est lui qui, maintenant, porte le nom de mon patron, et qui, lui, s'adapte maintenant non seulement au cancer du rectum, mais aussi au petit cancer du sein.
Oui, parce que la radiothérapie, c'est efficace, mais c'est extrêmement invasif. Vous avez donc voulu éviter, en quelque sorte, on peut le dire comme ça, des semaines et des semaines de traitement, c'est 6 semaines. Comment est-ce que vous avez fait pour inventer cette machine, une fois que vous vous êtes inspiré de papillons ?
Alors, vous avez raison. Le traitement standard de ces petits cancers du sein, qui sont quand même nombreux, hein, pratiquement 70% des 58 000 dont on a parlé, c'est on opère une tumorectomie et un mois après, on fait 6 semaines de rayons. Et actuellement, ce qu'on essaye, c'est de simplifier cette irradiation post-opératoire. On peut la faire en 3 semaines, on peut la faire maintenant en irradiant uniquement le site opératoire, soit avec de la curithérapie, on a à Nice le professeur Hanoun Lévy qui est un grand spécialiste, soit en faisant de la radiothérapie pendant l'opération.
Oui, vous dites on peut la faire sous plusieurs formes parce qu'effectivement la technique existait déjà, mais ce que vous avez changé, c'est le temps d'irradiation, 1 minute.
Exactement, 1 minute versus 60 minutes, versus 30 minutes. L'appareil le plus répandu en France s'appelle Intrabeam. C'est un appareil américano-allemand et il traite les malades très bien, mais après la tumorectomie, pendant l'opération, on met cet appareil au centre de la cavité d'exérèse et il faut 30 minutes pour donner la dose de 20 gray qui va être efficace. Et l'appareil papillon, grâce à un système de refroidissement très original, permet de faire la même chose en 1 minute. Donc c'est un gain pour la malade, pour l'anesthésiste, pour le chirurgien, pour le directeur d'hôpital qui gère mieux son bloc opératoire.
La première patiente a été traitée il y a un an, c'est ça ?
Exactement, il y a un an.
Et depuis ?
Elle va très bien. Je lui ai téléphoné il y a une semaine pour lui souhaiter une bonne année. Et elle était le lendemain chez elle. Elle faisait son jardin 3 jours après. Elle faisait Noël avec ses 6 petits-enfants 2 mois plus tard. Et actuellement, elle mène une vie normale. Et surtout, le traumatisme psychologique d'un cancer est complètement effacé, presque complètement effacé par ce traitement en 1 jour et une irradiation en 1 minute.
Notre coach, Riyad.
Oh, bah, je trouve ça génial, encore une fois, c'est la technologie au service de l'humanité et au service de la maladie, donc je trouve ça super. Alors moi j'avais une question à vous poser, puisque vous êtes professeur, j'ai l'impression que les cancers du sein, il y en a de plus en plus, ou alors on les détecte plus. Mais j'ai l'impression qu'autour de moi, je connais plein de gens, jeunes, hein, la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, qui sont fait diagnostiquer. C'est quoi le problème ? C'est notre mode de vie qui a impliqué ça, ou alors c'est qu'on les détecte plus tôt ?
C'est un peu tout ça. C'est que effectivement, une femme sur 8 fait un cancer du sein, un Français sur 3 fait un cancer, donc c'est quelque chose de très banal. Je suis sûr que dans vos familles,
évidemment,
vous avez tous des malades ou des patients ou de la famille qui ont eu un cancer, donc c'est un problème quotidien. Et le cancer du sein, tout à fait chez les femmes. Alors, mon voisin qui vient de brillamment vous exposer le dépistage est en partie responsable parce que grâce à lui, on détecte des petits cancers du sein qui peut-être n'auraient pas fait parler d'eux si on ne les avait pas trouvés. C'est pour ça qu'on est passé, moi, en 1969, il y avait 20 000 cancers du sein en France. Maintenant, il y en a pratiquement 60 000, soit 3 fois plus. Il y avait
donc
10 000 décès.
On les voit davantage, ils existaient, mais on ne le savait pas.
Alors, la population est passée de 50 millions à 66 millions.
D'accord.
L'âge médian qui était de 50 ans est passé à 65 ans. Ça explique en grande partie l'augmentation du nombre de cancers.
Maud, le taux de survie lui aussi est en constante augmentation.
Oui, ça, c'est fait, une bonne nouvelle. Ouais, j'ai quelques chiffres à vous donner. 87% des personnes sont en vie 5 ans après le diagnostic, 76% 10 ans après le diagnostic. Néanmoins, le cancer du sein continue à tuer quand même chaque année, hein, environ 12 000 personnes, mais un taux de mortalité qui en effet qui a énormément baissé ces 15 dernières années parce que, eh bien, il y a évidemment la technologie, la science qui évolue. Mais vous le disiez également, professeur, eh bien, le dépistage qui est eh bien, de plus en plus commun, de plus en plus appliqué.
Professeur, c'est un système que vous avez breveté. Il y a une histoire de refroidissement, si je schématise, dans la manière dont vous procédez.
Le Centre Antoine Lacassagne a breveté des applicateurs. L'appareil a un brevet anglais, pour faire simple. Voilà où on en est de ce côté-là.
Et du côté de la Haute Autorité de Santé,
alors, la Haute Autorité de Santé s'intéresse beaucoup à la radiothérapie péropératoire. Il y a eu plus de 7000 malades qui ont eu le système Intrabeam. À Nice, nous sommes le premier centre à faire le système papillon. Et bien sûr, nous attendons de la Haute Autorité qu'elle reconnaisse le service médical rendu de cette technique et qu'il y ait surtout un tarif. Parce que mon directeur qui accepte qu'on fasse cette expérimentation, il y perd de l'argent. Chaque fois qu'on fait une radiothérapie péropératoire à la place de 6 semaines de rayon, on perd 5 000 euros. à la Cassagne. Donc c'est un vibrant appel à la HAS pour qu'on ait un tarif.
On est du côté de la HAS, comme vous dites, la Haute Autorité de Santé, en train de se dire qu'il faut utiliser, mais dans le cadre de recherche clinique, c'est ça ?
Voilà, pour l'instant, il y a encore un peu un débat d'experts sur le service médical rendu, mais je crois que de plus en plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je prends l'exemple de Pauli Calmette, où ils ont fait 700 appareils intra-bim, trois rechutes sur 700. Donc je crois que quand même, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et voilà, ce fameux service médical rendu, il est assez évident.
On reste ensemble et on continue à parler innovation aujourd'hui en matière de lutte contre le cancer du sein.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et après, comment se passe la reconstruction ? Si reconstruction il y a, et bien désormais les patientes peuvent aussi pousser la porte de The Téton Tattoo, un salon de tatouage spécialisé. A tout de suite. Octobre rose, ensemble luttons contre le cancer du sein. On en parle cet après-midi dans La France Bouge avec des innovations pour aider les patientes. Vous souhaitez réagir, vous avez des questions, écrivez-nous via Twitter, hashtag Europe 1 ou alors appelez-nous au 39 21, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
L'ablation d'un sein, la reconstruction mammaire, c'est un processus qu'il faut accepter. C'est une étape lourde à franchir pour la patiente ou le patient et sa famille. L'après est aussi à prendre en compte après un cancer du sein. Bonjour Alexia Cassard.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous étiez biologiste en cancérologie et vous avez décidé de créer un salon de tatouage dédié à la reconstruction mammaire, ce qui est assez rare en France, je crois que c'est le seul. Racontez-moi pourquoi et comment vous est venue cette idée. Je crois que c'est après la maladie de votre fille, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai développé des traitements contre le cancer pendant un peu plus de 15 ans. Et effectivement, quand il arrive dans votre vie, il bouscule plein de choses. Vos certitudes, votre confort de vie et même au-delà de tout ça, votre envie de continuer à faire le même travail. Donc, après la rémission de notre petite fille, qui va bien aujourd'hui, hein, qui a 7 ans, il a fallu repenser un peu tout ça. Parce que l'après-cancer, c'est quelque chose qui est encore très peu traité, mais on a forcément des conséquences au-delà de la guérison. Il faut se reconstruire. Donc, reconstruire les autres, c'est ma mission d'aujourd'hui.
Vous avez arrêté de travailler en 2016, du coup, et vous vous lancez dans une formation de tatoueur. Et parce que vous voyez que ça existe aux États-Unis, le tatouage en 3D de téton, mais en France, il n'y en a pas.
Alors non, en France, il n'y avait rien d'officiel. Les très bons tatoueurs ont toujours eu des demandes de ce type-là. Ils les ont prises en charge quand ils se sont sentis capables de le faire, mais c'est quelque chose avec lesquels ils n'étaient pas confortables, parce que les tissus irradiés, les tissus opérés, et puis aussi la psychologie des personnes qui ont été malades n'ont rien à voir avec la peau qui va bien d'un client d'un salon de tatouage traditionnel. Et puis les connaissances qui sont nécessaires pour faire ce type de travail impliquent aussi de l'expérience. Donc c'était très balbutiant et il y avait une technique qui existait, qui existe toujours et qui est le gold standard de la reconstruction par le tatouage. C'est le tatouage qu'on appelle médical ou la dermopigmentation qui était faite en milieu hospitalier ou en cabinet d'esthétique. Et la solution du tatouage définitif vient complémenter cette offre avec quelque chose d'artistique. Donc on a quelque chose qui va ressembler au sein qui reste, qui va permettre de reconstruire aussi ou de recréer un sein qui n'existe plus quand on a enlevé les deux. Et qui va surtout avoir le bénéfice premier d'être définitif. Parce que ce geste s'apparente au tatouage traditionnel, donc on utilise de l'encre de tatouage, et on n'a pas la perte d'intensité et de couleur, et aussi on n'a pas ce côté plaqué du tatouage médical, parce qu'il faut rappeler que, bien évidemment, les médecins et les infirmières ne sont pas formés à l'artistique.
Vous dites médical, justement, vous avez commencé par aller travailler dans les centres médicaux, et très vite vous vous êtes aperçu que les patientes et les patients qui venaient vers vous préféraient faire ça en dehors d'un hôpital ou d'une clinique.
Oui, pour des raisons d'organisation, il n'était pas possible de faire des tatouages très intimes dans un salon de tatouage traditionnel. Donc je m'étais orientée vers une maison médicale qui a eu la gentillesse de m'accueillir. Parce qu'à partir du moment où on parle de tatouage, on trouve difficilement des locaux pour exercer, d'autant qu'il faut qu'ils soient normés et respectent des règles très particulières. Et donc effectivement, j'ai créé The Téton Tattoo Shop. C'est un concept d'un lieu extérieur au milieu médical qui n'est ni un salon de tatouage ni un cabinet d'esthétique et qui va pouvoir permettre l'expression de tout ce parcours qu'elles ont vécu, qu'elles me racontent aussi. Ça fait partie intégrante de mon geste, c'est de comprendre ce par quoi elles sont passées pour adapter la technique que je vais appliquer sur leur sein. Et puis, on est
dans la reconstruction morale aussi.
Exactement. Hein. La reconstruction émotionnelle fait partie intégrante. Et puis, il y a une visée sociétale aussi. On reconstruit la personne qui est derrière le téton. On lui permet de se regarder dans le miroir, d'être bienveillante envers elle-même, et puis de retrouver confiance en elle pour retrouver un conjoint, retrouver un travail, arrêter les antidépresseurs et se remettre dans la vie et dans l'après. Et donc moi, je l'ai vécu à titre personnel d'une autre manière, mais j'ai envie de leur faire sentir que le cancer, c'est pas une fin en soi. Si on a eu la chance d'en réchapper, on peut faire de belles choses avec et c'est important.
Riyad ?
Moi, je suis très touché par cette dimension morale. C'est vrai que le traitement du cancer, souvent, avait tendance un peu à vous mutiler. Et le médical disait, à partir du moment où le vital est assuré, on a fait notre job, quoi. Et là, vous prenez justement l'extension, tout ce qui se passe dans la tête derrière, en se disant, mais je suis privé d'un sein, j'existe plus, j'ai peur de me regarder, j'ai honte de me regarder, je me trouve pas belle. Et là, vous les rendez belles à nouveau, et je trouve ça super. Bravo.
Merci. Maud, une question.
Oui, on parle souvent de l'effet de l'après-traitement qui joue aussi dans la guérison. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce qu'on sait l'impact que peut avoir justement cet accompagnement une fois que le traitement est terminé sur la capacité à se remettre et à ne pas rechuter?
Alexia Kassar.
Alors oui, on a beaucoup plus d'études sur l'intervention du sport dans justement cette prévention de la rechute. Et il y a la Camille en France qui gère le sport et cancer et qui fait beaucoup d'études là-dessus. Sur les autres paramètres, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très rarement évalué. Et j'ai moi la difficulté même de monter des études, parce que j'essaye de monter une étude de qualité de vie pour pouvoir comparer les différentes techniques de reconstruction du mamelon et trouver une place à celle que je représente, parce qu'elle n'est aujourd'hui pas prise en charge pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Pour que ça soit remboursé, il faut des études, il faut des preuves matérielles de l'efficacité.
On n'a pas expliqué, Alexia, comment ça se passe. Il y a plusieurs rendez-vous, il y a un laps de temps aussi entre les rendez-vous, il y a la cicatrisation, ça prend du temps.
Alors, moi, je reçois les personnes un an après la dernière intervention, un an après la radiothérapie. Il faut que les tissus soient stabilisés, les reconstructions soient finies, que la symétrie soit opérationnelle. Le tatouage n'est pas là pour bricoler comme il a une visée définitive. Il faut vraiment être conscient qu'on arrive en fin de parcours. Donc, les tissus doivent être parfaitement propices à recevoir ce geste. On fait une première séance qui dure à peu près 3 heures, durant laquelle le geste de tatouage, lui, va prendre entre 30 et 40 minutes au maximum, parce que les tissus sont fragiles, lésés, abîmés, et qu'il n'est pas nécessaire de passer plus de temps que ça si on maîtrise son geste. La partie la plus longue de cette séance, c'est la détermination de la couleur. Et ça prend vraiment beaucoup de temps pour connaître ces encres, savoir comment elles évoluent dans le temps, et les adapter à chaque carnation, à chaque personne, parce qu'il y a un vrai travail artistique derrière tout ça, et c'est ça qui va donner la reconstruction efficace. Ensuite, dans 60-80% des cas, j'ai pas encore de statistiques vraiment réelles, mais on se revoit si c'est nécessaire. Dans ces 60% des cas, on se revoit pas. Mais on peut se revoir 3 mois après pour faire une petite retouche. Et au-delà de cette retouche, il n'y a plus besoin de réintervenir. Là, c'est vraiment un geste définitif. On va remettre un peu de contraste, on va remettre un peu de lumière sur certaines zones. Et on va permettre de finir réellement cette étape. Et entre ces 3 mois qui se sont écoulés, moi, je vois les femmes changer. Elles reprennent confiance en elles. Elles ont acheté une belle lingerie. Elles se sont coupées les cheveux. Parfois, elles ont retrouvé un compagnon. Et c'est un vrai bonheur de les suivre à travers ces aventures-là.
On reste ensemble et on attend maintenant vos réactions sur Europe 1. Il est 13h38.
Europe 1.
3921 et Twitter. Venez témoigner si vous avez envie. Vous pouvez décrocher votre téléphone ou nous envoyer un message pour être en direct avec nous dans La France Bouge. À tout de suite.
La France Bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier du jour consacré aux innovations pour aider les patientes atteintes du cancer du sein. Vous nous en parlez, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Nous sommes avec Alexia Kassar, ex-biologiste qui a ouvert en région parisienne le premier salon de tatouage exclusivement dédié à la reconstruction mammaire. Le professeur Jean-Pierre Gérard, radiothérapeute au centre Antoine Lacassagne, qui a créé la machine Papillon qui permet de réduire le temps d'irradiation pour certaines patientes ayant un cancer du sein. Et Pierre Fillard, cofondateur de Therapixel, start-up qui développe un système d'assistance aux radiologues lors des lectures de mammographie. Notre coach, c'est Riyad Boulanoir, avec moi aujourd'hui. Maud Descamps, question peut-être qu'on s'est tous posé en vous entendant tout à l'heure. Alexia, est-ce que c'est remboursé et combien ça coûte de se faire tatouer?
Alors, quand c'est fait à l'hôpital, c'est remboursé 125 euros par la Sécurité sociale. Quand c'est fait à l'extérieur, ça ne l'est pas parce que ça n'est pas un geste médical. Moi, je facture 450 euros pour un sein, pour les deux séances, et 700 euros pour les deux seins. Aujourd'hui, il y a des mutuelles qui ont fait le choix de m'accompagner et qui du coup prennent en charge une partie de ce geste. Et pour les patientes qui sont en situation précaire, si le médecin met en place un dossier d'entente préalable, certaines de mes clientes ont pu aussi avoir une prise en charge au titre des aides sociales par la Sécurité sociale. C'est aujourd'hui pas du tout généralisé et ça ne le sera que le jour où on aura pu aussi encadrer ce métier qui ne l'est pas aujourd'hui, qui peut être pratiqué par tout chacun.
Attention, hein, ne pas aller, surtout dans ce cadre-là, de la reconstruction mammaire, n'importe où. Il faut vraiment avoir une formation bien spécifique.
Alors, la formation bien spécifique, elle n'existe pas en France, ni même en Europe.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, elle existe. Par contre, c'est important que les gens aient un parcours de formation de tatoueur. Et le tatouage en France, il s'apprend auprès d'un maître tatoueur. Avec le Syndicat national des artistes tatoueurs, on défend vraiment cette position-là. On était au Haut Conseil de la Santé publique cette semaine avec Tintin, justement pour défendre cet accès à la formation uniquement sur le mode de cet apprentissage long et patient. Et bien sûr, il faut complémenter avec une formation aux techniques de reconstruction également et au tatouage spécifique de l'aréole.
Pierre Fillard, on parlait des processus de remboursement. Il y a tout un tas de démarches quand on met des nouvelles machines finalement à notre disposition. Il y a tout un tas de certifications à obtenir. C'est aussi ça qui freine un peu les choses parfois.
Alors, ça freine effectivement les choses, mais c'est aussi là pour une raison, c'est que comme on fait des
bien
dispositifs médicaux
que tout fonctionne,
qui doivent être certifiés, on a des, par exemple, ce qu'on développe permet d'aider à faire un diagnostic. En tout cas, la prise de décision peut être lourde de conséquences pour la patiente, également pour un dispositif qui va traiter activement le patient, ou même un tatouage, on a un acte opératoire quasiment qui va venir faire quelque chose sur le patient. Donc tout ça est réglementé en Europe et dans la plupart des pays du monde. Il faut passer par, c'est un peu le travail du combattant, des dossiers à déposer suivant la classe de risque, suivant la classe du dispositif, et aux États-Unis la même chose. Mais c'est toujours en tête pour la sécurité du patient. Donc il faut bien se rendre compte que si tout ça est en place, c'est pour vraiment avoir des dispositifs qui aient un vrai service rendu à la fin, et que le patient puisse en bénéficier en toute sérénité.
Maude ?
Une remarque en faisant des recherches pour l'émission sur le cancer du sein, on parle beaucoup de l'accompagnement de l'après, et il y a aussi l'accompagnement avant, et moi j'ai beaucoup lu sur l'autopalpation, puisqu'on est censé s'autopalper quand on est une femme, sauf que je me suis dit, mais en fait je ne sais absolument pas comment on fait, et j'ai découvert...
Il y a des petites démos. Hein.
Voilà, il y a des démos,
des
et tutos. J'ai découvert par exemple que toute cette semaine au Mans, il y avait un atelier qui était donc en plein centre-ville avec un buste en silicone, où les femmes peuvent aller prendre des conseils et s'entraîner. Certains hôpitaux le proposent aussi parce qu'on ne sait pas forcément comment s'autopalper, comment détecter potentiellement une grosseur.
Professeur, vous confirmez, il y a peu de femmes aujourd'hui qui savent faire ces gestes-là, qui savent détecter s'il y a une grosseur.
Alors ça a été beaucoup enseigné il y a une trentaine d'années, l'autopalpation. Et par définition, l'autopalpation ne détecte que des boules dans le sein que l'on sent.
Des mastoses.
Qui peuvent être beaucoup de choses. Et si c'est un cancer, c'est déjà un cancer relativement avancé. C'est pour ça qu'on fait du dépistage par des images qui ont la chance de découvrir bien avant. Ceci dit, oui, quand on prend sa douche, c'est très bien que les femmes regardent leur sein, les palpent. Il y a une façon assez simple de chercher une petite boule. Et si on trouve quelque chose, notamment si on a plus de 30-35 ans, il faut rapidement aller voir son médecin, faire des examens complémentaires. Et dans l'immense majorité des cas, on sera rassuré quand même.
Maude, il existe quand même, on va le dire, plusieurs outils pour établir un diagnostic du cancer du sein. Vous avez parlé de la palpation, il y en a d'autres, évidemment.
Bien sûr, alors en fait, ça va être un peu dans l'enchaînement. Il va y avoir la palpation, et puis si on détecte quelque chose, on va aller évidemment voir son médecin. C'est là où on va passer à l'imagerie, avec la mammographie, évidemment, qui va révéler éventuellement des lésions qui sont indétectables à la palpation. Puis viendra l'échographie, qui est prescrit justement lorsque la mammographie montre une anomalie. Et après, on va aller vers l'IRM, par exemple, qui va venir compléter la mammographie et l'échographie. Donc, on voit qu'il y a aussi un long processus dans l'établissement du diagnostic.
Un processus auquel vous participez tous les trois. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission pendant Octobre Rose, consacrée à la lutte contre le cancer du sein.
Merci à vous.
Merci.
Il est 13h46. Europe 1. On va rester ensemble et on va mettre un petit peu de douceur juste avant 14h puisque nous allons nous intéresser à l'histoire de la meringuée. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est la meringuée. Je peux vous dire que ça sent très bon dans le studio d'Europe 1. Bonjour Marie Stoclet-Bardon.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé avec votre mari la meringuée. C'était en 2015. Vous étiez une fan, et vous êtes toujours d'ailleurs, de cuisine. Vous adoriez faire des desserts, notamment la célèbre pavlova. À l'époque, vous étiez aux États-Unis et vous cuisiniez. Jusqu'au jour où votre mari vous a dit, mais quand même, il faudrait peut-être en faire quelque chose.
Alors effectivement, en rentrant des États-Unis, à Paris, j'ai commencé à faire ce dessert à la maison et cette pavlova à tous mes dîners. Nos invités étaient red dingue et léchaient le plat. Et donc, effectivement, mon mari m'a dit, mais c'est vraiment très très bon ta pavlova, il faut qu'on en fasse un business. Et puis en fait, d'une plaisanterie, c'en est devenu quelque chose de très sérieux.
Alors la pavlova, elle a une histoire, évidemment, et avec une polémique qui n'est toujours pas tranchée.
Absolument. C'est une ballerine russe, Anna Pavlova, qui a fait une tournée dans les années 20 en Australie. Et un pâtissier probablement néo-zélandais a inventé cette idée de mettre des fruits sur l'association de crème et de meringue qui était déjà traditionnelle pour créer la pavlova. Et donc effectivement, les néo-zélandais et les australiens s'attribuent la paternité du dessert. Donc il faut faire attention quand on est face à eux. Diplomatiquement, il faut faire très attention. Et c'est effectivement là-bas leur bûche de Noël.
Donc nous, c'est la meringuée, hein. Ce n'est pas la pavlova, même si, en tout cas, on l'a revisité avec vous.
C'est notre interprétation. Oui.
Première boutique ouverte très vite, finalement, parce que vous rencontrez vos associés et vous trouvez un local dans le 17e arrondissement de Paris.
Très bel emplacement rue de Lévis, effectivement. Donc on envisage avec nos associés de dédier la meringuée à la pavlova et la meringue. La pavlova, notre interprétation à nous, c'est une meringue craquante et moelleuse, des crèmes fouettées parfumées et des fruits frais de saison. Et on a effectivement 5 recettes toutes les semaines qui tournent. Et donc on a ouvert notre boutique rue de Lévis en 2015 et a très vite, très très vite, très très bien marché.
Très bien marché, à tel point que vous en avez ouvert 2 autres, toujours à Paris. Ma question suivante, vous la voyez venir. Quand est-ce que vous allez faire des petits dans les autres grandes villes? Parce qu'on aimerait aussi peut-être avoir des meringuées à Marseille, à Lyon ou à Lille.
Alors, on a encore un peu de place à Paris parce que finalement, notre meringuée, c'est un commerce de quartier. Donc finalement, vous allez acheter votre pavlova pour le dessert avec vos amis. Et vous, généralement, vous... Alors, un certain nombre de clients traversent Paris pour venir chez nous, nous en sommes très fiers. Mais la majorité de nos clients sont des clients qui habitent autour. Donc en fait, on a encore d'autres quartiers dans Paris dans lesquels on pourrait ouvrir une meringuée. Alors évidemment, la province fait partie, on a des clients qui nous disent quand est-ce que vous venez à Bordeaux ou à Lyon. Ça fait partie des choses qu'on étudie, mais c'est compliqué.
Vous travaillez des classiques, hein, vous avez des pavlova que vos clients connaissent, et puis chaque semaine une nouvelle recette avec la pavlova de la semaine, le fruit de saison, l'assemblage nouveau, que vous rajoutez finalement à votre carte ensuite.
Alors, en fait, on change en permanence, donc vraiment la nouveauté,
ça fait partie... Là, par exemple, on en a avec nous, hein, si vous nous suivez sur europe1.fr, on a du kiwi et de l'ananas. C'est ça ?
Absolument. Donc là, c'est la recette de cette semaine, qui est donc une crème fouettée au miel et au gingembre, avec de l'ananas et du kiwi. À côté, la toute petite, le bébé pavlova, c'est une crème fouettée au citron vert avec framboise et fruits de la passion. Ça, c'est notre recette star.
Tout le monde le joue dessus.
Et puis, effectivement, vous avez autour de vous la recette de Noël. Donc qui va venir bientôt. Alors on parlait de nouveautés, effectivement là on l'a vraiment décliné de façon différente. Donc la recette de Noël, c'est une crème fouettée à la baie de Sichuan vert et à la vanille, avec de l'ananas rôti, du kumquat confit et du fruit de la passion, qui va être déclinée sous deux formes. En forme pavlova meringuée, on va dire classique, avec une meringue craquante et moelleuse. Et là-bas vous voyez une pavlova roulée. Donc la meringue est roulée comme une génoise, elle reste très moelleuse.
Vous avez signé des partenariats pour cet hiver. Ça veut dire que des bûches de Noël, on va en retrouver dans des grandes surfaces, dans des grandes enseignes.
Alors effectivement, on a signé avec Monoprix, on signe leur recette de Noël, mais qui est complètement différente de la nôtre. Donc là, pour le coup, la bûche de Noël de Monoprix sera signée par la meringuée. Et puis effectivement, notre dessert favori, comme vous l'avez compris, c'est la pavlova. Et nous nous sommes dit, en fait, on aimerait rendre la pavlova accessible au plus grand nombre.
Donc, avez créé ceci,
un kit. On a créé un kit. Alors, ça s'appelle 1, 2, 3 pavlova par la meringuée. 1, on prend sa meringue. 2, on prend sa crème fouettée ou sa crème chantilly. Et 3, on prend ses fruits. Et hop, en 2 coups de main, 2 coups de cuillère à peau, en 5 minutes chez vous, vous faites votre pavlova.
Maude ?
Oui, moi, je suis toujours un peu étonnée quand je vois qu'un commerce est un peu monothème. Là, vous faites que les pavlovas, mais certains ont fait que les choux à la crème, d'autres que des merveilleux. Ça veut dire que d'un point de vue business, on sait que c'est quelque chose qui marche, de se concentrer sur un produit ?
Alors, je ne peux pas répondre pour les autres, mais effectivement, en ce qui nous concerne, oui, ça fonctionne. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, on apporte beaucoup de nouveautés. Donc, on parlait de En fait, nos clients nous disent, toutes les semaines, on a quelque chose de nouveau chez vous. Et mon bonheur, c'est quand un client arrive le samedi matin en disant, c'est quoi votre recette de la semaine ?
Riyad ?
Il vous manque quoi pour grossir ?
Il nous manque du temps parce qu'en fait, nous sommes entrepreneurs et impatients, donc on aimerait grossir très très vite. Donc là, par exemple, on est en train de chercher un quatrième magasin. Demain, on aimerait pouvoir ouvrir à New York. Et effectivement, mon mari et moi avons... on va dire un emploi du temps extensible, mais mon rêve, ce serait que 48 heures en 24 heures puissent le faire.
Et ce que vous n'avez pas dit et qui est important, c'est qu'on vous voit préparer, c'est aussi ça la clé du succès, c'est qu'on voit les pavlovas se faire, se fabriquer sous nos yeux.
Alors,
quand
tout,
on entre
absolument,
dans
tout,
la meringue.
En fait, notre philosophie, c'est que tout est transparent, tout est fait devant les clients, les fruits frais sont livrés chaque matin, découpés, épluché sur place, et donc on est vraiment dans la fraîcheur absolue avec un dessert minute, ce qui fait que si vous arrivez à 19h le soir, si vous n'avez pas le format qui vous convient, pas de problème, on vous l'adresse en 3 minutes pour vous.
Ça s'appelle La Meringuée, 3 boutiques, bientôt une quatrième et peut-être très vite en région et à New York. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Merci Raphaël.
Merci à Riyad qui était notre coach. Merci Maud d'avoir été avec nous. Céline, on se dit à lundi.
À lundi, c'était Raphaël Duchemin sur Europe 1 et dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat.